Radio Okapi.
Blaise Shindani à la présentation.
Félix Tshisekedi a salué l'endurance des Congolais malgré trois décennies de cycles armés, entraînant plusieurs morts et des déplacements massifs de population. Il a dit ce mardi à Doha, au Qatar, au cours du deuxième sommet mondial sur le développement organisé sous l'égide des Nations Unies. Un mort touché par la foudre, une dizaine de maisons inondées et plusieurs toitures emportées par l'ouragan. C'est le bilan des pluies torrentielles qui se sont abattues hier lundi sur une grande partie du territoire de Mwenga et qui ont entraîné des dégâts matériels et humains à Kibumba et Kitutu. Les forces vives du territoire de Mwenga sollicitent l'intervention du gouvernement provincial, voire national. L'hôpital général de référence de Bukavu mène une campagne de la prise en charge de malades souffrant d'hydrocéphalie sans laisser de cicatrices sur le corps. À moins de 5 jours de la campagne, l'hôpital a déjà enregistré 37 malades, en majorité des enfants. Pour en parler, nous recevons le neurochirurgien Dr Safari Paterne. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Le président de la République salue la résilience des Congolais malgré trois décennies de cycles armés avec notamment plusieurs morts et des déplacements massifs de population. Félix Tshisekedi l'a dit ce mardi à Doha au Qatar au cours du deuxième sommet mondial sur le développement organisé sous l'égide des Nations Unies. Il a présenté des réformes amorcées par la RDC pour mettre fin aux inégalités et éradiquer la pauvreté en encourageant l'inclusion sociale. Il s'agit entre autres de la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement primaire et le programme de développement des 145 territoires. Par ailleurs, le chef de l'État a souligné que la coopération internationale ne doit pas être un système permanent de dépendance. On écoute Félix Tshisekedi dans ses propos recueillis par Alain Irung.
Nous l'avons dit dans nos engagements récents, la coopération internationale ne doit pas être un système permanent de dépendance. Elle doit être un pacte d'égal à égal où chacun rend des comptes à l'autre. Notre ambition commune doit être que d'ici la prochaine génération, les principes de justice sociale ne soient plus seulement proclamés dans des sommets comme celui-ci, mais vécu dans la vie quotidienne de chaque citoyen en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Cela exige du courage politique. Cela exige de regarder en face nos contradictions. Cela exige de mettre fin à l'idée que certains peuples seraient condamnés à l'instabilité, à la pauvreté ou à la guerre. La République démocratique du Congo croit en un avenir où la justice sociale cessera d'être une promesse et deviendra un droit collectif et effectif.
Ici au pays, au Nord Kivu, la situation demeure tendue et volatile ce mardi dans les groupements de Kihongo et Bukombo, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. La zone reste le théâtre des combats opposant l'AFC M23 au Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement CMC Nyatura. Cela depuis plusieurs jours. Hier lundi, plus d'une dizaine de civils ont été blessés dans ces combats au village Machango, dans le groupement de Bukombo, disent nos sources locales. Les détails avec vous, Élisée Chikota Chivueta.
C'est un milieu de la journée hier lundi qu'une patrouille du mouvement rebelle AFC M23 est tombée dans une embuscade des combattants CMC au niveau de Machango dans le groupement de Bukombo, indique plusieurs sources contactées dans la zone. Selon ces sources, des dizaines de civils, nombreux en provenance de Kachuru, un groupement voisin de Kiondo et qui s'est trouvé à Machango pour des travaux communautaires, se sont retrouvés pris dans des faits croisés lors de ces combats. Au moins 18 blessés parmi ces civils ont été reçus jusqu'hier soir à l'hôpital de référence de Mweso dans les territoires voisins de Masisi, indiquent les sources médicales. Depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, une grande partie de la chefferie de Bwito est le théâtre des affrontements récurrents opposant les rebelles de l'AFC M23 au groupe Wazalendo, dont le CMC de Dominique Ndarou aussi. Plusieurs villages ont déjà été vidés de leur population dans la zone. Certains déplacés sont regroupés dans et autour de Mouesson. Quelques-uns résistent encore dans la zone de Birambizo, alors que d'autres ont fui vers les groupements Kayabayonga plus au nord.
Toujours alors qu'il vaut, la société civile de la commune de Moussoussa dénonce la montée de la criminalité marquée par les incursions nocturnes, des braquages et des cas de meurtre dans cette municipalité de la ville de Butembo. Selon son président, Maître Moïse Ndeke Yonge, plusieurs cas de vols de motos et de tracasseries sont signalés dans la zone. Il appelle les autorités à intensifier les enquêtes pour identifier les auteurs et renforcer les dispositifs de sécurité. La société civile recommande également un contrôle rigoureux de la circulation des armes au sein des FARDC et des groupes Wazalendo. Nous n'avons pas eu la réaction des autorités locales. En Ituri, une cinquantaine de personnes issues de communautés Ema et Bira participent depuis ce mardi à un dialogue communautaire à Miala, à une dizaine de kilomètres au sud de Bunia. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de réinsertion socio-économique des ex-combattants et des membres de communautés locales. Ce dialogue est organisé par la section désarmement, démobilisation, réinsertion, DDR de la MONUSCO. Cette activité vise à renforcer la cohabitation pacifique entre les anciens miliciens et les populations qui ont été victimes des exactions des groupes armés. Martial Kizabiamongo.
Pendant deux jours, les participants venus de Miala et de Telega, parmi eux des membres des communautés Ema Bira, ainsi que des ex-combattants, sont sensibilisés aux notions de cohésion sociale, des non-violences et des cohabitations pacifiques. Ils apprennent également la gestion responsable des ressources communautaires et les principes de base des droits humains. Selon Akiza Maïché, officier à la section des désarmements, démobilisation et réinsertion de la MONUSCO, cette initiative vise à identifier de manière participative les problèmes qui freinent la cohésion pacifique dans cette zone longtemps affectée par les conflits armés. Il précise qu'une série de séances de formation et de sensibilisation sera organisée dans les 5 sites ciblés par les projets. Rappelons que plus de 300 ex-combattants et habitants de Miala et Telega engagés dans l'agriculture bénéficient déjà d'un appui de la MONUSCO et de ses partenaires dans le cadre de leur réinsertion socio-économique. Économique. Bunia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Nous le disions en titre, une personne est morte touchée par la foudre, une dizaine de maisons inondées et plusieurs toitures emportées par l'ouragan. C'est le bilan des pluies torrentielles qui se sont abattues hier lundi sur la majeure partie du territoire des Mwenga et qui ont entraîné des dégâts matériels et humains à Kibumba et Kitutu. Vu l'ampleur des dégâts, les forces vives du territoire des Mwenga sollicitent l'intervention du gouvernement provincial, voire national. Lungele Itebo, président de la société civile territoriale des Mwenga, est au micro de Jean Kassami.
La pluie a commencé de 17h30 jusqu'à 19h à Kibumba, aussi de 18h jusqu'à 19h à Kitutu. Chef Fridomzi, parlons d'abord de ce qui s'est produit à Kibumba. Un boy chauffeur qui travaillait dans un bourbier pour chercher le passage de son véhicule était foudroyé. Il a perdu sa vie sur place. À Kitutu, chefferie de Wamuzimu, 13 maisons inondées par les eaux de la rivière Mbirumazi et une autre rivière sépara les cités royales et Kangubanguba et autres maisons détolées et des toitures emportées par cette pluie à vent violent. Les organisations membres de la société civile sont toujours dans une étape de récolte des données pour produire un rapport final aux décideurs.
À Matadi au Congo central, 25 de 51 prévenus motocyclistes et grévistes ont été condamnés à des peines de prison allant de 6 mois à 1 an, assortis d'amendes non précisées. C'est le verdict rendu hier la nuit par le tribunal de grande instance qui a tranché dans l'affaire des motocyclistes impliqués dans les troubles du 27 octobre pendant qu'ils manifestaient contre la baisse de prix de la course en taxi et en taxi-moto. Le maire de Matadi, qui a suivi ce procès, salue son déroulement et affirme qu'il rêvait d'un caractère pédagogique. Selon Dominique Nkodiambete, la grève est un droit, mais elle ne peut en aucun cas donner lieu à l'incivisme et à la barbarie. Nana Purush Mambu nous en parle.
Parmi ces 51 motocyclistes et grévistes qui poursuivaient la justice du Congo central, 25 ont été condamnés à des peines de prison allant de 6 mois à 1 an, 22 ont été acquittés, tandis que 4 mineurs ont été confiés au tribunal pour enfants. Les charges retenues contre eux sont entre autres association de malfaiteurs, rébellion, troubles à l'ordre public, coups et blessures volontaires et destruction méchante. Cependant, 6 détenus se sont évadés à la veille du verdict vers 3h du matin. Les autorités judiciaires ont ordonné leur recherche active. Pour des raisons de sécurité, le jugement n'a pas été prononcé sur la place publique, mais plutôt au siège du tribunal pendant que les prévenus étaient déjà transférés à la prison centrale de Kamoulaye. Le procès ouvert le 29 octobre à l'esplanade de la mairie de Matadi a été suivi de près par les autorités provinciales, notamment le ministre de l'Intérieur Jacques Kiazola et le maire Dominique Nkodiambete. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Dans le chapitre sanitaire, les personnels du secteur sanitaire du Kasaï central ont organisé un sit-in hier lundi au gouvernorat de la province. Ils disent avoir organisé cela sur demande des syndicats nationaux dans le but d'exiger l'amélioration de leur prise en charge. Devant le gouverneur des provinces, ces corps soignants ont lu les documents qui justifiaient leur présence au bâtiment administratif. Suivez un extrait de leurs revendications choisies par André Katende Ngalamulume.
Au regard de l'indifférence manifeste du ministre des Finances lors du sit-in tenu le jeudi 30 octobre 2025 devant le centre financier de Kinshasa, un méga sit-in dénommé « Allons travailler au ministère des Finances » ce lundi le 3 novembre 2025 devant le centre financier de Kinshasa pour les cadres et agents du secteur de la santé de la ville de Kinshasa et devant le gouvernorat des provinces pour ces des provinces. Et c'est jusque, premièrement, à la paye complémentaire effective des mois d'août et de septembre 2025. Deuxièmement, à l'intégration de la paye complémentaire à la paye ordinaire au premier trimestre 2026. Troisièmement, au paiement avec effet rétroactif des agents dont les comptes ont été gelés en avril 2025. Et quatre, au respect de tous les autres engagements pris dans le cadre des accords entre les banques syndicales et les banques gouvernementales.
Et cette bonne nouvelle pour la population du Maniema, avant d'aller plus loin, pour la première fois depuis l'indépendance, le gouvernement congolais va, dans deux phases, asphalter certaines routes dans les 7 territoires du Maniema. Il va aussi lancer les travaux d'asphaltage de la voirie de Kindu. C'est le ministre national des infrastructures et travaux publics qui l'a dit hier lundi 3 novembre à la deuxième conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures. Pour John Banza, l'objectif est de désenclaver la province du Maniema en la connectant avec ses provinces voisines. Il s'agit notamment de la province de la Tchopo, le Grand Katanga, la province de la Lomami et la province du Sud Kivu. Florence Kizalunga pour plus de précisions.
Dans son adresse, le ministre des Infrastructures a exprimé la volonté du président de la République qui tient à construire l'ensemble du pays. Pour lui, de manière concrète et dans un bref délai, il faudra assurer la connectivité du Maniema en commençant à rendre praticables les tronçons Kisangani-Ubundu. John Banza.
Nous allons lancer les travaux de la voirie. Contrairement à ce qui a été fait, nous allons ajouter l'asphaltage de quelques routes dans la ville de Kindu. Nous allons cette fois-là, pour la première fois depuis l'indépendance, commencer à asphalter les routes dans la ville de Kasongo, Bangi, Kalima, Kibongo. Après, nous allons prendre Kabambare, Kailo et Lubutu. Tout ça est dans le programme du gouvernement de la République. Et après, dans la grande stratégie globale, c'est relier les routes nationales, traverser le Maniema et qui les connecte vers les autres provinces. Et nous avons pris des dispositions pour financer avec le trésor public tous les travaux que nous avons mentionnés ici.
À part les routes, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a évoqué également les ponts du Maniema qui sont délabrés. Il affirme avoir laissé les équipes techniques pour évaluer afin de répondre à ses besoins. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Un mort, plusieurs blessés et des bâtiments incendiés à Diego Suarez, ville du nord de Madagascar. L'expulsion des non-étudiants hors du campus d'Antiranana a viré à des violents affrontements ce week-end. Des étudiants et des jeunes des quartiers se sont affrontés avec des prises d'otages de part et d'autre. Des violences qui ravivent la crainte d'une réapparition des foroches, des bandes organisées munies d'armes blanches composées de très jeunes délinquants payés pour servir les intérêts de quelques-uns. En réaction, les autorités ont instauré un couvre-feu et déployé l'armée autour du campus, tandis qu'une enquête est ouverte sur ces violences meurtrières.
L'invité.
L'hôpital général des références de Bukavu mène une campagne de la prise en charge des malades souffrant d'hydrocéphalie sans laisser des cicatrices sur les corps. À moins de 5 jours de la campagne, l'hôpital a déjà enregistré 37 malades, en majorité des enfants. Sur les 37, seuls 28 sont détectés éligibles à la chirurgie hydrocéphalique. Pour en parler, nous recevons en invité le neurochirurgien Dr Safari Paterne et son entretien avec Jean Kassami.
Docteur Safari Paterne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et merci beaucoup pour l'invitation.
Vous êtes neurochirurgien, vous supervisez la campagne de la prise en charge des malades souffrant d'hydrocéphalie. Qu'est-ce que c'est cette maladie?
Au niveau de l'hôpital provincial de Bukavu, nous organisons la campagne de la prise en charge des hydrocéphalies par voie endoscopique, qui est une technique nouvelle et qui consiste donc à dériver le liquide céphalorachidien qui est accumulé dans le cerveau de l'enfant ou de l'adulte. Et au lieu d'utiliser un drain ou un shunt qui fait passer le liquide de la boîte crânienne jusqu'au niveau de l'abdomen, on le fait plutôt circuler dans le cerveau, mais en trouvant une autre voie de passage puisque la voie est obstruée. Et donc, nous créons une autre voie pour permettre à ce que ce liquide puisse être produit, circuler et se résorber comme d'habitude. Et donc, cette technique est nouvelle et permet de ne pas laisser du matériel inerte dans le corps humain. Ça veut dire le drain qui est un corps étranger avec tous les risques d'infection, mais également les dysfonctionnements. Du coup, cette technique, nous l'avons adoptée. Et elle serait applicable au niveau de l'hôpital provincial de référence de Bukavu, pas seulement pendant la campagne, mais même après la campagne. Donc c'est une activité permanente et dont la population de Bukavu et de la périphérie de la ville et même au-delà de la province pourront bénéficier.
Comment se déroule alors la campagne proprement dite?
Nous avons commencé donc notre campagne ce mercredi de cette semaine et nous comptons poursuivre jusqu'au mercredi prochain. On n'a pas de financement extérieur, mais par contre, nous avons bénéficié d'équipements de l'organisation internationale QAN Neuro, une organisation américaine, et qui nous a donc permis d'acquérir le matériel. Et l'hôpital provincial s'est chargé donc de toutes les charges de shipment, donc de transport et dédouanement et consorts, pour que ce matériel puisse nous arriver en très bon état. Et tout ça, c'est grâce à la collaboration de l'hôpital, de notre service et de notre département, et la collaboration avec donc l'organisation QAN Neuro. Cette campagne permettra donc de résoudre les problèmes qui sont souvent très compliqués. Vous savez, les enfants avec hydrocéphalie, ce sont ces enfants qui ont des grosses têtes. Et souvent, c'est un facteur de stigmatisation. L'on pense que il serait des porte-malheurs au niveau de la famille ou que ça serait donc un mauvais sort qui a été jeté sur la femme. Ce n'a rien de tout cela. C'est juste un trouble de fonctionnement ou de circulation du liquide. Et donc, en faisant l'intervention, on arrive à résoudre ce problème-là, ce qui permet au cerveau de l'enfant de croître de manière normale et d'acquérir des capacités intellectuelles et motrices qui permettent à l'enfant de vivre une vie normale. Et cela donc permet de résoudre beaucoup de problèmes et sur le plan social et sur le plan individuel, donc de la personne qui en souffre.
Le coût est-il accessible aux habitants de Bukavu dont l'économie est ruinée aujourd'hui par la guerre à répétition?
La campagne de la prise en charge des hydrocéphalies par voie endoscopique n'est pas gratuite, ça je dois le signaler. puisque l'hôpital n'a pas reçu de subsides pour financer cette campagne et donc on essaye de faire avec des moyens de l'hôpital et des malades. Alors l'hôpital essaye de rendre accessibles les soins en baissant le coût de l'imagerie, par exemple le scanner qui est à moitié prix pendant la période de campagne pour ce qui est du coût de l'intervention et d'autres charges liées à l'hospitalisation. L'hôpital essaie de définir un forfait qui facilite l'accès aux soins, même aux personnes les plus vulnérables.
Docteur Safari Paterne, merci pour tous ces détails sur la campagne médicale qui se déroule à l'hôpital général de référence de Bukavu.
Merci.
C'était notre invité, le docteur Safari Paterne, qui s'entretenait avec Jean Kassami. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal Parlé, coordonnée par Élisée Tchikotati Voueta, supervisée par Alain Iron Mochinge, Jean-Claude Nsiala Mwana Makengo Mtsoalou, la mise en onde. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.